Jules Michelet. La sorcière. Chapitre 9. Satan médecin. La scène muette et sombre de la fiancée de Corinthe se renouvelle à la lettre du XIIIe au XVe siècle. Dans la nuit qui dure encore avant l'aube, les deux amants, l'homme et la nature, se retrouvent, s'embrassent avec transport, et dans ce moment même, horreur, ils se voient frappés d'épouvantables fléaux. On croit entendre encore l'amante dire à l'amant « C'en est fait, tes cheveux blanchiront demain, je suis morte, tu mourras ». Trois coups terribles en trois siècles. Au premier, la métamorphose choquante de l'extérieur, les maladies de peau, la lèpre. Au second, le mal intérieur, bizarre stimulation nerveuse, les danses épileptiques. Tout se calme, mais le sang s'altère, l'ulcère prépare la syphilis, le fléau du XVe siècle. Les maladies du Moyen-Âge, autant qu'on peut l'entrevoir, moins précises, avait été surtout la faim, la langueur et la pauvreté du sang, cette étisie qu'on admire dans la sculpture de ce temps-là. Le sang était de l'eau claire, les maladies scrofuleuses devaient être universelles. Sauf le médecin arabe ou juif, chèrement payé par les rois, la médecine ne se faisait qu'à la porte des églises, aux bénitiers. Le dimanche après l'office, il y avait force malades, ils demandaient des secours et on leur donnait des mots. « Vous avez péché et Dieu vous afflige. Remerciez, c'est autant de moins sur les peines de l'autre vie. Résignez-vous, souffrez, mourrez. L'Église a ses prières des morts. » Faible, languissant, sans espoir ni envie de vivre, il suivait très bien ce conseil et laissait aller la vie. Fatal découragement, misérable état qui dut indéfiniment prolonger ses âges de plomb et leur fermer le progrès. Le pis, c'est de se résigner si aisément, d'accepter la mort si docilement, de ne pouvoir rien, ne désirer rien. Mieux valait la nouvelle époque, cette fin du Moyen-Âge qui, au prix d'atroces douleurs, nous donne le premier moyen de rentrer dans l'activité, la résurrection du désir. Quelques Arabes prétendent que l'immense irruption des maladies de la peau, qui signale le XIIIe siècle, fut l'effet des stimulants par lesquels on cherchait alors à réveiller, raviver les défaillances de l'amour. Nul doute que les épices brûlantes, apportées d'Orient, n'y aient été pour quelque chose. La distillation naissante et certaines boissons fermentées purent aussi avoir action. Mais une grande fermentation, bien plus générale, se faisait. Dans l'aigre combat intérieur de deux mondes et de deux esprits, un tiers survit qui les fit taire. La foi pâlissante, la raison naissante disputaient. Entre les deux, quelqu'un se saisit de l'homme. Qui ? L'esprit impur, furieux, des âcres désirs, leur bouillonnement cruel. N'ayant nul épanchement, ni les jouissances du corps, ni le libre jet de l'esprit, la sève de la vie refoulée se corrompit elle-même. Sans lumière, sans voix, sans parole, elle parla en douleur, en sinistres efflorescences. Une chose terrible et nouvelle advient alors, le désir ajourné, sans remise, se voit arrêté par un cruel enchantement, une atroce métamorphose. L'amour avançait, aveugle, les bras ouverts, il recule, frémit. Mais il a beau fuir, la furie du sang persiste, la chair se dévore elle-même en titillations cuisantes, et plus cuisante au-dedans sévit le charbon de feu, irrité par le désespoir. Quel remède l'Europe chrétienne trouve-t-elle à ce double mal? La mort, la captivité, rien de plus. Quand le célibat amer, l'amour sans espoir, la passion aiguë, irritée, t'amène à l'état morbide, quand ton sang se décompose, descend dans un in pace ou fait ta hutte au désert, tu vivras la clochette en main pour que l'on fuie devant toi. Nul être humain ne doit te voir, tu n'auras nulle consolation, si tu approches, la mort. La lèpre est le dernier degré et l'apogée du fléau. Mais mille autres maux cruels, moins hideux, sévirent partout. les plus pures et les plus belles furent frappées de tristes fleurs qu'on regardait comme le péché visible ou le châtiment de Dieu. On fit alors ce que l'amour de la vie n'eût pas fait faire. On transgressa la défense, on déserta la vieille médecine sacrée et l'inutile bénitier. On alla à la sorcière. D'habitude, et de crainte aussi, on fréquentait toujours l'église. Mais la vraie église dès lors fut chez elle sur la lande, dans la forêt, au désert. C'est là qu'on portait ses vœux. Vœux de guérir, vœux de jouir. Au premier bouillonnement qui en sauvageait le sang, en grand secret, aux heures douteuses, on allait à la Sibylle. Que ferais-je? Et que songe en moi? Je brûle, donnez-moi des calmants. Je brûle, donnez-moi ce qui fait mon intolérable désir. Démarche hardie et coupable qu'on se reproche le soir. Il faut bien qu'elle soit pressante, cette fatalité nouvelle, qu'il soit bien cuisant ce feu, que tous les saints soient impuissants. Mais quoi? Le procès du temple, le procès de Boniface ont dévoilé la Sodome qui se cachait sous l'autel. Un pape sorcier, ami du diable et emporté par le diable, cela change toutes les pensées. Est-ce sans l'aide du démon que le pape qui n'est plus à Rome, dans son Avignon, Jean XXII, fils d'un cordonnier de Cahors, a pu amasser plus d'or que l'empereur et tous les rois? Tel le pape et tel l'évêque. Guichard, l'évêque de Troyes, n'a-t-il pas obtenu du diable la mort des filles du roi? Nous ne demandons nulle mort, nous, mais de douces choses, vie, santé, beauté, plaisir, choses de Dieu que Dieu nous refuse. Que faire? Si nous les avions de la grâce du prince du monde. Le grand et puissant docteur de la Renaissance, Paracelse, en brûlant les livres savants de toute l'ancienne médecine, les latins, les juifs, les arabes, déclare n'avoir rien appris que de la médecine populaire, des bonnes femmes, des bergers et des bourreaux. Ceux-ci étaient souvent d'habiles chirurgiens, rebouteurs d'eau cassée, d'émis et de bons vétérinaires. Je ne doute pas que son livre admirable et plein de génie sur les maladies des femmes, le premier qu'on ait écrit sur ce grand sujet, si profond, si attendrissant, ne soit sorti spécialement de l'expérience des femmes mêmes, de celles à qui les autres demandaient secours, j'entends par là les sorcières, qui partout étaient sages-femmes. Jamais dans ce temps la femme n'eût admis un médecin mâle, ne se fût confiée à lui, ne lui eût dit ses secrets. Les sorcières observaient seules, et furent, pour la femme surtout, le seul et unique médecin. Ce que nous savons le mieux de leur médecine, c'est qu'elles employaient beaucoup, pour les usages les plus divers, pour calmer, pour stimuler, une grande famille de plantes, équivoques, fort dangereuses, qui rendirent les plus grands services. On les nomme avec raison les consolantes, solanées, famille immense et populaire dont la plupart des espèces sont surabondantes sous nos pieds, aux haies, partout. Famille tellement nombreuse qu'un seul de ces genres a 800 espèces. Rien de plus facile à trouver, rien de plus vulgaire. Mais ces plantes sont la plupart d'un emploi fort hasardeux. Il a fallu de l'audace pour en préciser les doses. L'audace peut être du génie. Prenons par en bas l'échelle ascendante de leurs énergies. Les premières sont tout simplement potagères et bonnes à manger. Les aubergines, les tomates, mal appelées pommes d'amour. D'autres de ces innocentes sont le calme et la douceur même, les molènes, bouillons blancs, si utiles aux fomentations. Vous rencontrez au-dessus une plante déjà suspecte, que plusieurs croyaient un poison, la plante mielée d'abord, amère ensuite, qui semble dire le mot de Jonatas, « J'ai mangé un peu de miel, et voilà pourquoi je meurs. » Mais cette mort est utile, c'est l'amortissement de la douleur. La douce amère, c'est son nom, dut être le premier essai de l'homéopathie hardie qui peu à peu s'éleva au plus dangereux poison. La légère irritation, les picotements qu'elle donne purent la désigner pour remède des maladies dominantes de ces temps, celles de la peau. La jolie fille désolée de se voir parée de rougeurs odieuses, de boutons, de dartres vives, venait pleurer pour ce recours. Chez la femme, l'altération était encore plus cruelle. Le sein, le plus délicat objet de toute la nature, et ces vaisseaux qui dessous forment une fleur incomparable, est, par la facilité de s'injecter, de s'engorger, le plus parfait instrument de douleur. Douleur âpre, impitoyable, sans repos. Combien de bon cœur elle eût accepté tout poison. Elle ne marchandait pas avec la sorcière, lui mettait entre ses mains la pauvre mamelle alourdie. De la douce amère, trop faible, on montait aux morels noirs, qui ont un peu plus d'action. Cela calmait quelques jours. Puis la femme revenait pleurer. « Eh bien, ce soir tu reviendras. Je te chercherai quelque chose. Tu le veux, c'est un grand poison. » La sorcière risquait beaucoup. Personne alors ne pensait qu'appliquer extérieurement ou pris à très faible dose. Les poisons sont des remèdes. Les plantes que l'on confondait sous le nom d'herbes aux sorcières semblaient des ministres de mort. Telles qu'on eût trouvé dans ses mains l'aurait fait croire empoisonneuse ou fabricatrice de charmes maudits. Une foule aveugle, cruelle, en proportion de sa peur, pouvait un matin l'assommer à coups de pierre, lui faire subir l'épreuve de l'eau, la noyade. Ou enfin, chose plus terrible, on pouvait la corde au cou, la traîner à la cour d'église, qui en eût fait une pieuse fête, eût édifié le peuple en la jetant au bûcher. Elle se hasarde pourtant, va chercher la terrible plante. Elle y va au soir, au matin, quand elle a moins peur d'être rencontrée. Pourtant, un petit berger était là, le dit au village. « Si vous l'aviez vu comme moi se glisser dans les décombres de la masure ruinée, regarder de tous les côtés, marmotter je ne sais quoi. Oh, elle m'a fait bien peur. Si elle m'avait trouvé, j'étais perdue. Elle eût pu me transformer en lézard, en crapaud, en chauve-souris. Elle a pris une vilaine herbe, la plus vilaine que j'ai vue, d'un jaune pâle de malade, avec des traits rouges et noirs, comme on dit les flammes d'enfer. L'horrible, c'est que toute la tige était velue comme un homme, de longs poils noirs et collants. Elle l'a rudement arrachée, en grognant, et tout à coup je ne l'ai plus vue. Elle n'a pu courir si vite, elle se sera envolée. Quelle terreur que cette femme, quel danger pour tout le pays !» Il est certain que la plante est fraîche. C'est la jusquiame, cruel et dangereux poison, mais puissant émollient, doux cataplasme sédatif, qui résout, détend, endort la douleur, guérit souvent. Un autre de ces poisons, la belle ladone, ainsi nommée sans doute par la reconnaissance, était puissante pour calmer les convulsions qui parfois surviennent dans l'enfantement, qui ajoutent le danger au danger, la terreur à la terreur de ce suprême moment. Mais quoi ? Une main maternelle insinuait ce doux poison, endormait la mère et charmait la porte sacrée. L'enfant, tout comme aujourd'hui, où on emploie le chloroforme, seul opérait sa liberté, se précipitait dans la vie. La belle ladone guérit de la danse en faisant danser. Audacieuse homéopathie qui d'abord dut effrayer, c'était la médecine à rebours, contraire généralement à celle que les chrétiens connaissaient, estimaient seule, d'après les arabes et les juifs. Comment y arriva-t-on ? Sans doute par l'effet si simple du grand principe satanique que tout doit se faire à rebours, exactement à l'envers de ce que fait le monde sacré. Celui-ci avait l'horreur des poisons. Satan les emploie, et il en fait des remèdes. L'Église croit par des moyens spirituels, sacrements, prières, agir même sur les corps. Satan, au rebours, emploie des moyens matériels pour agir même sur l'âme. Il fait boire l'oubli, l'amour, la rêverie, toute passion. Aux bénédictions du prêtre, il oppose des passes magnétiques par de douces mains de femmes qui endorment les douleurs. Par un changement de régime, et surtout de vêtements, sans doute en substituant la toile à la laine, les maladies de la peau perdirent de leur intensité. La lèpre diminua, mais elle sembla rentrer et produire des maux plus profonds. Le XIVe siècle oscilla entre trois fléaux, l'agitation épileptique, la peste, les ulcérations qui, à en croire Paracelse, préparaient la syphilis. Le premier danger n'était pas le moins grand. Il éclata, vers 1350, d'une effrayante manière, par la danse de Saint-Guy, avec cette singularité qu'elle n'était pas individuelle. Les malades, comme emportés d'un même courant galvanique, se saisissaient par la main, formaient des chaînes immenses, tournaient, tournaient, à mourir. Les regardants riaient d'abord, puis par une contagion, se laissaient aller, tombaient dans le grand courant, augmentaient le terrible cœur. Que serait-il arrivé si le mal eût persisté, comme fit longtemps la lèpre dans sa décadence même? C'était comme un premier pas, un acheminement vers l'épilepsie. Si cette génération de malades n'eût été guérie, elle en eût produit une autre décidément épileptique. Effroyable perspective, l'Europe couverte de fous, de furieux, d'idiots. On ne dit point comment ce mal fut traité et s'arrêta. Le remède qu'on recommandait, l'expédient de tomber sur ses danseurs à coups de pieds et de poings, était infiniment propre à aggraver l'agitation et la faire aboutir à l'épilepsie véritable. Il y eut sans nul doute un autre remède dont on ne voulut pas parler. Dans le temps où la sorcellerie prend son grand essor, l'immense emploi des solanées, surtout de la belladone, généralisa le médicament qui combat ses affections. Aux grandes réunions populaires du sabbat, dont nous parlerons, l'herbe aux sorcières, mêlée à l'hydromel, à la bière, aussi au cidre, au poiré, les puissantes boissons de l'Ouest, mettaient la foule en danse, une danse luxurieuse, mais point du tout épileptique. Mais la grande révolution que font les sorcières, le plus grand pas à rebours contre l'esprit du Moyen-Âge, c'est ce qu'on pourrait appeler la réhabilitation du ventre et des fonctions digestives. Elles professèrent hardiment rien d'impur et rien d'immonde. L'étude de la matière fut dès lors illimitée, affranchie, la médecine fut possible. Qu'elles aient fort abusé du principe, on ne le nie pas. Il n'est pas moins évident. Rien d'impur que le mal moral, toute chose physique est pure, nul ne peut être éloigné du regard et de l'étude, interdite par un vain spiritualisme, encore moins par un sot dégoût. Là surtout, le Moyen-Âge s'était montré dans son vrai caractère, l'anti-nature, faisant dans l'unité de l'être des distinctions des castes, des classes hiérarchiques. Non seulement l'esprit est noble, selon lui, le corps non noble, mais il y a des parties du corps qui sont nobles et d'autres non, roturières apparemment. De même, le ciel est noble et l'abîme ne l'est pas. Pourquoi ? C'est que le ciel est haut. Mais le ciel n'est ni haut ni bas, il est dessus et dessous. L'abîme, qu'est-ce ? Rien du tout. Même sottise sur le monde et le petit monde de l'homme. Celui-ci est d'une pièce, tout y est solidaire de tout. Si le ventre est le serviteur du cerveau et le nourrit, le cerveau, aidant sans cesse à lui préparer le suc de digestion, ne travaille pas moins pour lui. Les injures ne manquèrent pas. On appela les sorcières sales, indécentes, impudiques, immorales. Cependant, leurs premiers pas dans cette voie furent, on peut le dire, une heureuse révolution dans ce qui est le plus moral, la bonté, la charité. Par une perversion d'idées monstrueuses, le Moyen-Âge envisageait la chair, en son représentant, maudit depuis Ève, la femme, comme impure. La Vierge, exaltée comme Vierge, plus que comme Notre-Dame, loin de relever la femme réelle, l'avait abaissée en mettant l'homme sur la voie d'une scolastique de pureté où l'on allait enchérissant dans le subtil et le faux. La femme même avait fini par partager l'odieux préjugé et se croire immonde. Elle se cachait pour accoucher. Elle rougissait d'aimer et de donner le bonheur. Elle, généralement si sobre, en comparaison de l'homme, elle qui naît presque partout qu'herbivore et frugivore, qui donne si peu à la nature, qui, par un régime lacté végétal, à la pureté de ses innocentes tribus, elle demandait presque pardon d'être, de vivre, d'accomplir les conditions de la vie. Humble martyre de la pudeur, elle s'imposait des supplices, jusqu'à vouloir dissimuler, annuler, supprimer presque ce ventre adoré, trois fois saint, d'où le Dieu homme naît, renaît, éternellement. La médecine du Moyen-Âge s'occupe uniquement de l'être supérieur et pur. C'est l'homme, qui seul peut devenir prêtre, et seul à l'autel fait Dieu. Elle s'occupe des bestiaux, c'est par eux que l'on commence. Pense-t-on aux enfants ? Rarement, mais à la femme, jamais. Les romans d'alors, avec leur subtilité, représentent le contraire du monde. Hors des cours, du noble adultère, le grand sujet de ces romans, la femme est partout la pauvre Griselidis, née pour épuiser la douleur, souvent battue, soignée jamais. Il ne faut pas moins que le diable, ancien allié de la femme, son confident du paradis, il ne faut pas moins que cette sorcière, ce monstre qui fait tout à rebours, à l'envers du monde sacré, pour s'occuper de la femme, pour fouler aux pieds les usages et la soigner malgré elle. La pauvre créature s'estimait si peu. Elle reculait, rougissait, ne voulait rien dire. La sorcière, adroite et maligne, devina et pénétra. Elle sut enfin la faire parler, tira d'elle son petit secret, vainquit ses refus, ses hésitations de pudeur et d'humilité. Plutôt que de subir telle chose, elle aimait mieux presque mourir. La barbare sorcière la fit vivre.